Je fis l'erreur de vouloir aérer ma cellule en ouvrant l'une des fenêtres. Mal m'en pris. Un bruit assourdissant m'agressa. Il provenait d'une cour ou de cellules vraisemblablement en contrebas de la mienne. Je ne pus identifier la nature de ces cris, pas plus que leur origine. Y avait-il une bagarre? S'agissait-il de manifestations qui m'étaient destinées? Certains de mes nouveaux voisins ne semblaient pas bénéficier d'un équilibre mental optimal. Un détenu s'acharnait à frapper les barreaux de sa cellule avec un objet métallique. Ce vacarme a duré plusieurs minutes. Elles m'ont paru interminables. L'ambiance était menaçante. Bienvenue en enfer. J'ai vite refermé la fenêtre. Je prendrai l'air plus tard. Ce n'était pas la priorité du moment. L'espace d'un instant, je me suis demandé comment j'allais pouvoir survivre dans cet environnement hostile. J'en étais là de mes réflexions quand le sous-directeur est revenu à la charge. Il trépignait à l'idée de me montrer la salle de sport utilisable une heure chaque jour, à condition d'y être absolument seul. Les consignes étaient claires. Je ne pouvais ni ne devais parler ou échanger avec qui que ce soit en dehors des surveillants. Il m'était même précisé qu'étant placé à l'isolement, je ne serais extrait de ma cellule qu'après vérification préalable par l'administration qu'aucun détenu ne se trouvait sur mon passage. Après tant de décennies de rencontres, de contacts humains, d'échanges aux quatre coins du monde, de foules qui m'acclamaient ou me conspuaient, cette cure de solitude imposée ne pouvait m'être que salutaire à condition de réussir à m'y adapter. Je devrais donc cohabiter avec moi-même dans 12 mètres carrés. Je verrais ainsi, si je pouvais m'autosuffire, il restait à espérer que les conversations que j'aurais avec mon double durant ces prochaines semaines seraient instructives. Je me promettais de m'astreindre à une activité sportive quotidienne. Bien qu'ayant dépassé les 7 décennies, je ne peux imaginer une journée sans sport. Il est vital à mon équilibre. J'ai besoin de me dépenser, de transpirer, d'évacuer ce trop-plein d'énergie. Est-il utile de préciser que cette nécessité s'est trouvée exacerbée par l'enfermement? Comment ne pas devenir neurasthénique quand on est contraint de demeurer 23 heures sur 24 dans sa cellule? La salle d'activité sportive était très petite. 3 machines s'y entassaient côte à côte. Un rameur, un vélo, un tapis de course. L'espace était si étroit que je pouvais à peine me faufiler entre les 3 équipements. La porte devait être fermée lorsque j'utilisais cet espace. Je ne tarderai pas à constater la chaleur étouffante qui y régnait après 10 minutes d'activité soutenue. Le cœur s'emballait vite. Respirer devenait un effort. La sueur ruisselait. Il me fallait prendre garde au risque de malaise. Malgré tout, cette salle m'a paru être l'équivalent dans ma situation d'une véritable oasis. Le directeur me proposa de visiter la cour de promenade que j'aurais le droit d'utiliser 1 heure par jour, toujours seul. Je déclinai, après qu'il m'eut expliqué qu'elle était assez petite et qu'elle était entièrement grillagée, y compris en sa partie supérieure. Il s'agissait davantage d'une cage que d'un lieu de promenade. De surcroît, n'ayant jamais fumé la moindre cigarette, je n'imaginais pas éprouver le besoin d'utiliser ce lieu. J'avais été prévenu que des photographes avaient loué un appartement censé surplomber la dite cour, leur permettant de prendre un cliché du nouveau détenu qu'ils pourraient négocier au prix le plus élevé. Comme toujours, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il s'agissait de ma contribution involontaire à la bonne marche des affaires en France. Raison de plus pour m'abstenir de pratiquer la marche à la santé, ce ne serait pas un sacrifice insurmontable. J'en savais désormais assez. J'aspirais à me retrouver seul dans ma cellule, afin de lire, de réfléchir et surtout de m'apaiser. Je ne fus interrompu que par le bruit des clés, ouvrant ma porte pour me proposer le déjeuner. Il était 11h30, je n'avais vraiment pas faim, et je ne crois pas avoir manqué grand-chose en déclinant le repas proposé dans de petites barquettes en plastique qui, sans faire injure à celui qui les avait préparées, n'étaient pas très attrayantes. N'étant pas gourmet, aimant les mêmes choses depuis mon enfance, ne modifiant jamais mes goûts culinaires, je ne suis vraiment pas ce que l'on appelle un client difficile. Bien au contraire. Je n'aime que les choses simples. Je me suis contenté de la barre de céréales chocolatées qui faisait office de dessert du jour. Devant ce choix minimaliste, un surveillant me confia gentiment « Ben, vous n'allez pas grossir en prison !» Ben, cela tombait bien. Je n'en avais nullement l'intention, ni ici, ni dehors. Seule éclaircie dans cette journée sombre, Carla me rejoignit au parloir de la santé. Cette visite, dès le premier jour, constituait un immense soulagement. Je ne l'avais quittée que depuis quelques heures, elle me manquait déjà cruellement. Un surveillant vint m'avertir qu'elle était en chemin. Je devais me préparer à l'extraction de ma cellule. Ce fut rapide, j'enfilai un jean et une des chemises que j'avais emportées. Le chemin vers le parloir était assez long. Il me fallut traverser la moitié de la prison sans croiser le moindre détenu, toujours entouré de 4 surveillants de la pénitentiaire et de 2 policiers de ma sécurité. Nous arrivâmes dans un petit couloir sombre qui me sembla être un rez-de-chaussée. Carla m'attendait devant la porte. Elle se jeta littéralement dans mes bras. Ses traits étaient marqués, elle était blanche. Je la sentais dévastée. J'étais si heureux de la retrouver et de pouvoir la serrer contre moi. On nous introduisit dans une pièce de 5 mètres carrés à peine, sans fenêtre, avec un néon au plafond. Les surveillants fermèrent la porte à double tour. On n'est jamais trop prudent. Nous aurions pu fuir. L'endroit n'était pas triste, il était glauque. Il y avait une table en formica et 2 chaises en plastique. Pas un verre d'eau, pas un café, pas une once d'humanité. Je m'excusais auprès de Carla de la recevoir de cette manière comme de lui faire subir toutes ces horreurs. Elle éclata de rire, tant la situation lui paraissait improbable. Cela faisait du bien de la voir ainsi. Nous avions tant de choses à nous dire. Carla ne pouvait me lâcher la main. Nous étions émus et heureux. Elle me trouva bonne mine, ce qui la rassura. Au bout de 50 minutes, la directrice adjointe de la santé frappa à la porte pour nous signaler, avec délicatesse, mais fermeté, qu'il me fallait déjà retourner dans ma cellule. Carla avait les larmes aux yeux. Je la serrai dans mes bras. Une fois encore, je mesurai combien nous étions privilégiés de connaître cet amour qui avait si bien résisté à l'usure du temps. Ce moment partagé m'avait quelque peu rasséréné. J'étais presque apaisé. Il était 16 heures. Il me fallait apprendre à gérer la monotonie de la solitude et du silence. La meilleure solution, et sans doute la seule, était de se mettre au travail. L'oisiveté est le pire des travers, spécifiquement lorsque l'on se trouve privé de liberté. Il fallait que je me secoue. Je n'en avais ni l'envie ni l'énergie. Pourtant, je pris une des feuilles blanches que j'avais emportées avec moi. Je m'assis sur la chaise inconfortable face à la petite table de travail. L'espace d'un instant, je me remémorais le bureau du général de Gaulle qui avait été le mien 5 années durant à l'Élysée. Grandeur et décadence. Quelle nouvelle belle leçon d'humilité étais-je en train de recevoir? Je voulais m'enrichir de cela pour ne pas subir, surtout ne pas subir. Le miracle se produisit. La première phrase est venue, suivie de bien d'autres. Je m'attelais au journal d'un prisonnier. Je pus écrire ainsi de longues heures. L'après-midi passa vite. Grâce à l'écriture, je m'étais évadé et avais pu faire abstraction de tout ce qui m'entourait. Ce fut le premier moment de calme et de sérénité. J'en avais tant besoin. J'appréhendais bien davantage la nuit que les journées. Je me demandais comment j'allais réagir. Lors de l'examen initial, le médecin de la santé m'avait proposé des pilules pour mieux dormir. Avec humanité, elle avait tenu à me mettre en garde. La première nuit est toujours un moment compliqué pour le nouveau détenu. Je la croyais sans peine, même si sans le vouloir, elle avait augmenté la pression, en me mettant face à une réalité que je tentais d'oublier. Je n'étais finalement peut-être pas plus fort que les autres, et je n'avais vraiment pas besoin de ce rappel. L'obscurité était complète. Le bruit à l'extérieur était en train de redoubler. J'entendais des cris et des menaces qui m'étaient maintenant clairement destinées. J'étais seul. Les surveillants de jour étaient rentrés chez eux. J'appris par la suite que durant la nuit, le nombre de surveillants de cette prison qui compte 1100 détenus parmi les plus dangereux de France était réduit. Ce n'était guère rassurant au regard de l'ambiance hostile qui avait prévalu à mon arrivée dans l'établissement. Dans cette atmosphère désespérante autant que menaçante, j'ai soudainement éprouvé le besoin de m'agenouiller au bord de mon lit. J'ai prié. Je ne l'ai pas vraiment choisi, ni réellement décidé. J'y avais pensé avant d'entrer en prison. J'avais imaginé le faire. Mais en situation, c'est venu comme une évidence. Je suis resté ainsi de longues minutes. Je n'ai pas vu le temps passer. Je priais pour avoir la force de porter la croix de cette injustice. Cela m'a fait du bien. Je me suis senti plus serein et plus fort. Et si la prière devait être le chemin pour résister, je décidais de l'emprunter aussi souvent qu'il serait nécessaire. Ce fut la première expérience positive de ma vie de prisonnier. Je n'en parlais à personne. J'en aurais été gêné tant ma pudeur est grande sur ce sujet. Cela a toujours été plus facile pour moi, s'agissant de questions intimes et importantes, d'écrire plutôt que de dire. Ma vie entière, j'ai utilisé aisément la parole comme un instrument de conquête. Force est de reconnaître que dans mon cas, l'écriture est bien davantage la voie naturelle de la confession. Cette expérience spirituelle m'a rendu heureux en cette fin d'après-midi sinistre. Cela représentait en soi une grande victoire. Un téléphone était installé dans ma cellule, comme dans celle des autres détenus. Il s'agissait d'un poste fixe. Je devais me tenir debout pour l'utiliser, car il était fixé au mur à hauteur d'homme. Son utilisation n'était guère aisée. Personne n'avait la possibilité de m'appeler. Je pouvais le faire, mais uniquement pour des numéros qui avaient été préalablement enregistrés et agréés par l'administration pénitentiaire. Il convenait ensuite de composer pas moins de 10 chiffres qui constituait autant de codes nécessaires pour obtenir la ligne permettant enfin d'atteindre le correspondant désiré. Un véritable parcours du combattant. J'appelais ce soir-là tous mes enfants, en affirmant que tout allait pour le mieux. Ils n'en crurent pas un mot, mais jouèrent le jeu afin de me protéger à leur tour. Carla me fit promettre de l'appeler durant la nuit si je n'arrivais pas à dormir, ou si je rencontrais la moindre difficulté, je me promis, à l'inverse, de ne rien en faire. Elle avait déjà subi bien assez de choses. Le miracle du calendrier fit que ce soir-là, il y avait un match du PSG diffusé sur Canal+, en direct de Leverkusen en Allemagne. La télévision de la cellule disposait de tous les canaux de la TNT auxquels venait s'ajouter la chaîne cryptée. Je mentirais en affirmant que j'ai regardé mon équipe avec la même joie insouciante qu'à l'accoutumée. Mais ce spectacle m'a permis d'atteindre une heure raisonnable pour tenter de m'endormir. Un match de la Champions League pour ma première soirée d'incarcération, c'était soit un hasard, soit un autre signe de la Providence. Et il n'était pas loin de minuit quand je me glissais dans le lit si étroit de ma cellule. J'ai d'abord quelques difficultés à comprendre comment on éteignait le plafonnier. J'ai craint de confondre l'interrupteur avec l'appel d'urgence des surveillants. Je ne souhaitais pas débuter ma première nuit en déclenchant une alerte suivie d'une polémique médiatique assurée. La journée avait été riche en émotions. Je commençais à subir le poids de la fatigue. J'avais l'impression d'avoir vécu 10 ans en 24 heures. Cela avait été interminable. Je fermais les yeux et m'endormis malgré le vacarme qui n'avait pas cessé. La prison est plus sonore la nuit que le jour. Mon voisin de cellule passait une partie de son temps à chanter le Roi Lion et l'autre à s'acharner avec sa cuillère contre les barreaux de sa cellule, déclenchant un bruit assourdissant. Je lui étais reconnaissant d'avoir arrêté ses activités à cette heure assez avancée de la nuit. Je ne tardais pas à sombrer dans un sommeil agité. Les bruits de l'extérieur arrivaient dans ma cellule par vagues successives et continues. Cela s'apaisait puis enflait à nouveau. Cris, hurlements, insultes, menaces, j'avais le choix. La fatigue fut cependant la plus forte. Je ne compris qu'au petit matin qu'il n'y avait aux fenêtres ni rideaux, ni volet, ni store, pas le plus petit obturateur de lumière. Me coucher avec le soleil, me lever avec lui serait mon nouveau rythme de vie. Je m'éveillais un peu avant 7 heures. Au matin de ma première nuit en prison, je n'avais pas si mal dormi. Mes forces s'étaient reconstituées, mon quotidien pouvait débuter. Faut-il que je sois un homme d'habitude pour me réveiller en prison à la même heure qu'à mon domicile? Je souriais intérieurement de cette régularité quasi militaire de mon organisme. La vie en prison était très cadrée. Le matin, j'avais le droit à 1 heure avec mes avocats. L'après-midi, 50 minutes avec ma famille, 3 fois par semaine, parfois 4, lorsque l'administration l'autorisait. Avec les 5 enfants et ma femme, cela faisait peu, d'autant que les visites étaient limitées à 3 personnes à la fois. Je devais donc refuser les innombrables demandes de mes amis ou de mes collaborateurs qui souhaitaient me témoigner leur affection en venant me voir. Ma priorité était définitivement Carla et les enfants. Mon premier parloir de la journée fut avec mon avocat Jean-Michel Darrois. Nous sommes liés depuis des années par une affection profonde. Il arriva toujours aussi élégant dans sa présentation comme dans sa pudeur. J'avais le droit de le voir à mon étage, à la différence de Carla. J'étais heureux de le retrouver. Nous sommes proches humainement, la conversation est toujours fluide entre nous et la confiance totale. Jean-Michel était encore abasourdi par la décision du tribunal. Sa sensibilité d'homme de gauche ne pouvait accepter que je subisse toutes ces violations brutales des règles d'un état de droit digne de ce nom. Ma présomption d'innocence piétinée, les incohérences d'un jugement dont le raisonnement aurait dû conduire à la reconnaissance de mon innocence et non au prononcé d'une peine aussi lourde, le prononcé de l'exécution provisoire alors qu'elle n'avait pas été requise par le parquet national financier, que rien ne pouvait la justifier et qu'elle bafouait mon droit à un recours effectif, la détention provisoire qui était d'autant plus choquante que j'avais répondu scrupuleusement aux innombrables convocations judiciaires de ces 13 dernières années, il m'étreignit à son arrivée. Je le sentais très ému. Il évitait de trop parler pour ne pas sombrer lui aussi. Puis nous nous sommes assis face à face, nous passâmes 1 heure à échanger davantage sur la vie, les sentiments, nos familles, ou même sur mon destin qu'il trouvait romanesque, que sur le droit. Je n'avais pas vu le temps passer. J'étais triste de son départ. Je ressentais physiquement la différence qui existait désormais entre les autres et moi. Il pouvait quitter la prison, moi non. Je finirais par m'y habituer. Mais pour le moment, c'était à chaque fois un choc que je devais dissimuler de mon mieux. La journée s'écoulait avec une monotone tranquillité. Quand je fus prévenu que j'avais été menacé de mort par 3 co-détenus lors de ma première nuit. Une vidéo, diffusée par des prisonniers en direct de leur cellule, appelait très explicitement à venger Kadhafi sans délai. Les policiers n'avaient pas dormi de la nuit. L'administration se montra diligente puisque les trois auteurs furent identifiés en 24 heures. C'était déjà cela. Le pédigré du suspect principal faisait froid dans le dos. L'individu de 27 ans avait déjà été condamné à 13 années de prison pour extorsion de fonds et coups et blessures sur une personne en raison de son orientation sexuelle. Charmant personnage. Ses complices n'étaient guère plus recommandables. Je me demandais vraiment où j'étais tombé et comment m'extraire de ce cauchemar. Sans être paranoïaque, on pouvait espérer un meilleur accueil. J'étais malgré tout rasséréné par cette rapide arrestation, mais aussi perplexe quant à l'utilisation de tous ces portables au sein d'une prison si sécurisée. Il est vrai qu'il n'y avait pas moins de 900 détenus entassés dans le bâtiment où résidaient mes agresseurs. J'étais sans doute l'un des rares ici à ne pas disposer du moindre téléphone portable, ni d'ordinateur. Alors que je ne mettais en danger personne et que, bien évidemment, je respectais les règles de la prison scrupuleusement. Le directeur est venu m'expliquer la situation. Il m'est apparu embarrassé et je sentais qu'il serait heureux de mon départ le plus tôt possible. Moi aussi, le pauvre, devait se demander si chaque nuit serait semblable à celle que nous venions de vivre. Cet incident regrettable permit de clore rapidement la polémique naissante sur ma sécurité en prison. Les députés écologistes et de la France insoumise exigeaient que je sois considéré comme un détenu ordinaire. Leur conception d'une égalité caricaturale autant que sectaire était offensée à l'idée que je puisse recevoir un traitement particulier. Le débat avait enflé à l'occasion des déclarations du garde des Sceaux qui souhaitait venir me rendre visite pour s'assurer des conditions de ma sécurité, louable intention. La preuve venait spectaculairement d'être apportée que ce n'était sans doute pas une initiative superflue. Ces parlementaires sourcilleux omettaient de rappeler qu'ils avaient eux-mêmes rendu visite à plus de 10 reprises en prison à Georges Ibrahim Abdallah, terroriste d'extrême-gauche, condamné pour l'assassinat de deux diplomates américains et israéliens. Visiblement, cet individu et moi-même n'étions pas des détenus ordinaires. Mais pas pour les mêmes raisons. J'avais la faiblesse de penser que les miennes étaient meilleures.